On va faire une petite introduction, un petit résumé en 2-3 minutes de ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent pour plonger Be'ezrat Hashem dans le chapitre 43. Le chapitre 43 est un chapitre dans lequel on va parler de ce qu'on appelle la Ir'a Tata, Ir'a Ila'a, Ahava Rabba, Ahava Zuta. Je traduis tout de suite, j'explique. La crainte de bas niveau, la crainte de Dieu de haut niveau. D'accord? L'amour, le grand amour vers Dieu et le petit amour. Donc, il y a les deux. Il y a la petite crainte, la grande crainte. Le petit amour, le grand amour. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de secrets de la Torah qui se cachent dans ce qu'on est en train de dire. Mais je disais que je voulais d'abord faire une petite introduction. Dans les chapitres précédents du Tanya, nous avons expliqué. Donc là, on va commencer le 43e chapitre, donc on a déjà fait 42. Dans les 42 chapitres précédents du Tanya, nous avons expliqué comment, d'un côté, l'essentiel pour un juif, c'est l'action. C'est de faire la Torah, de faire les mitzvot concrètement. Puisque concrètement, c'est ça ce qui crée la demeure pour Dieu. Et que même si on n'a pas eu la Kavana, ce qui compte, c'est l'action. On a eu beaucoup de cours dans lesquels on a expliqué cette idée, que ce qui compte, c'est l'action. Mais d'un autre côté, et c'est ce qu'on a expliqué dans les derniers chapitres, depuis le chapitre 30, 38, 39, 40, 41, etc. On a expliqué que c'est vrai que l'essentiel c'est l'action, mais d'un autre côté, on ne peut pas négliger la kavana, on ne peut pas négliger la pensée, le fait de vivre une mitzvah, le fait de développer un sentiment d'amour envers Dieu, de développer un sentiment de crainte envers HaKadosh Baruch Hu. Et il a donné cette image qui nous accompagne depuis quelques semaines, qui dit qu'une mitzvah accompli sans kavana, c'est comme un corps sans âme et c'est comme un oiseau qui n'a pas d'aile. Ça veut dire que il peut pas décoller. Et justement, l'objectif maintenant qu'on a dans le Tanya, c'est d'expliquer comment on peut arriver à des sentiments. Parce que faire les mitzvot, tout le monde peut faire les mitzvot. Bon, c'est facile. Tu dis, tu prends des lanières, tu les attaches sur ton bras, tu les mets sur ta tête, tu mets les tefilines. C'est facile. Rien n'est facile, mais tout est facile et rien n'est facile. Mais faire les choses, c'est facile. Mais sans ressentir les choses, c'est plus compliqué. Et là, on est passé à une vitesse supérieure. On te dit que non seulement il faut faire les choses, mais il faut les ressentir. Il faut avoir un sentiment d'amour de Dieu. Il faut avoir un sentiment de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors là, on arrive à la notion de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer, on va continuer en fait ce qu'on a expliqué dans le chapitre 42, mais on va rentrer beaucoup plus en profondeur. Qu'il y a deux catégories de crainte. Et je vais reprendre un exemple que j'ai donné la semaine dernière, et cet exemple va être la base du cours d'aujourd'hui. Si je vous dis par exemple que vous allez voir un tzaddik, bon, vous allez voir un tzaddik. Vous savez que les gens ils racontent souvent que lorsqu'ils vont voir un tzaddik, devant le tzaddik, ils se sentent bien, mais ils tremblent. Ils tremblent. Ils disent pourquoi tu trembles? Quelqu'un qui tremble, c'est quelqu'un qui a peur, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi tu trembles?
Il perd les mots,
il tremble, il est là, il est. Il tremble. Pourquoi il tremble? Alors, il dit, il tremble parce qu'il a peur du tzaddik. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qu'il va te faire?
Il va
te manger, il va te scanner, il va te dire ce que tu as à l'intérieur. T'inquiète pas, il va rien te faire. Pourquoi t'as peur? Mais maintenant, Charles, deux choses l'une. Ou t'as quelque chose à te reprocher, tu l'avais avant de venir ici, ou t'as rien à te reprocher et t'as rien à te reprocher. Seulement, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, il y a deux catégories de craintes. Et là, on va commencer à comprendre ce qu'il veut nous dire ici. Il y a une première catégorie de crainte dans laquelle une personne a peur de la punition. Il a peur de se prendre un coup. Il a peur que le tzaddik va lui dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait hier soir ?» Il raconte à tout le monde. Ça, c'est une crainte de bas niveau, ça. C'est une crainte de bas niveau. Ça veut dire que t'as pas peur du tzaddik. T'as peur de ce qu'il va te raconter et t'as peur que ta couverture soit démasquée. Oh, de la même façon, faut avoir une crainte comme ça par rapport à Dieu. J'ai pas peur de Dieu. J'ai peur qu'il me frappe. J'ai pas peur de lui. J'ai peur qu'il me frappe. Ça, c'est une crainte de bas niveau. Mais il y a une crainte d'un niveau qui est beaucoup plus fort. Qui est une crainte, ce qu'on appelle en français, une crainte révérentielle. C'est quoi la crainte révérentielle? Crainte révérentielle, c'est que j'ai pas peur du tzaddik. J'ai pas peur qu'il raconte ce que j'ai fait. J'ai pas peur. Seulement, j'ai honte devant lui. Parce que je sais que devant lui, on peut rien lui cacher. Devant tous les autres, je peux cacher. Mais devant le tzaddik, je peux rien lui cacher. Et comme je sais que je peux rien lui cacher, j'ai honte. Et comme j'ai honte, j'ai tellement honte que je me sens tout nu. Vous savez, le sentiment qu'on a, imaginez que tu te sens tout nu. Tu te sens tout nu, comme ça tout le monde te regarde. Personne ne te regarde, mais tu te sens tout nu. Quand tu es devant le tzaddik, tu sens que tout nu. Tu sans que c'est lui qui l'observe tout ce que tu fais. Et donc c'est pour ça que la personne est gênée et qu'il a peur. Mais c'est pas une peur dans le sens que bonsoir qu'il a peur de la punition. Il n'a pas peur de la punition. De quoi il a peur? C'est une crainte révérentielle. Ça veut dire qu'il a honte. Il a honte par rapport. Il a honte par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Par rapport au tzaddik et par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je pense que cet exemple est un exemple parfait pour expliquer ce qu'on va expliquer aujourd'hui par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quelle crainte à Kadosh Baruch Hu attend de nous? C'est ça la question. Le thème d'aujourd'hui, c'est quelle crainte Dieu attend de nous? Est-ce qu'il attend une crainte de bas niveau ou une crainte de haut niveau? Et la vérité, c'est que on pourrait poser cette question aussi par rapport à la relation qu'il y a entre un père et son fils. Entre un père et son fils, il y a une relation d'amour aussi. Mais il y a aussi une relation de crainte, qui est peut-être plus forte que par rapport à la mère. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être.
Oui.
Ok? Voilà. Je le précise. Maintenant, comme je disais, ça je le disais avant les fêtes, je répète cet exemple aussi, parce que je pense que c'est des exemples de la vie de tous les jours qui nous permettent de comprendre ce que le Talmud Morazakan attend de nous. Quand t'as un gamin qui est petit, qui fait une bêtise, il a peur de son père. Pourquoi il a peur de son père? Parce qu'il a peur que son père va le punir. Il a peur que son père va le punir, il va le priver, il va le faire, etc. Il va le punir. Bon. Donc ça, c'est la peur de la punition. Après, quand l'enfant il grandit un petit peu, il a plus peur de la punition. Elle lui fait pas peur, la punition. De quoi il a peur? Il a peur de décevoir ses parents. Enfin, par exemple, une fois, ça arrive.
18 ans.
Ça, même avant. Des fois, tu vas dehors dans la rue, tu vois des jeunes en train de fumer, je sais pas quoi. Et il te dit, Dieu, dis pas mon père, je t'en prie. Pourquoi il dit pas mon père? Pourquoi il dit pas mon père? Il a peur de son père. Il est plus fort que son père. Seulement, il a pas envie de décevoir son père. Il dit, mon père, il a une image de moi, j'ai pas envie de lui gâcher cette image. Ouais, c'est mon problème, c'est entre moi et Dieu. Ouais, je gère mes comptes avec Dieu, mais j'ai pas envie que mon père ait cette image de moi. Moi, je suis mon petit écart, je pars quand je veux, je reviens quand je veux. Mais je veux pas envie que mon père il ait cette image de moi. Est-ce qu'il a peur de son père? Non, là, c'est plus une peur. Là, c'est un respect. C'est un respect. Et vous pourrez être étonné à quel point, parfois, des gens de la communauté ou d'ailleurs, qui me disent « mes enfants me respectent pas », à quel point j'ai eu l'occasion, bon, des choses qu'on peut pas toujours raconter, mais de le voir, que l'enfant, la façon comment il te parle de ses parents, tu vois qu'il respecte ses parents. Pas ce temps qu'il respecte, c'est qu'il a une crainte de respect. Maintenant, bon, ça reste quand même les crises d'adolescence, ça, on peut rien faire. Ça, c'est les hormones, c'est comme ça. Bon, il y a des fois des choses qui sont difficilement maîtrisables.
Les hormones?
D'accord? Les gens ont les hormones. Et il n'y a pas que les filles qui ont les hormones. Les garçons aussi, ils ont les... Bah oui, mais bien sûr. La puberté, etc., ça change, ça crée des tensions, évidemment, bien sûr. Il y a quelque chose qui change dans le corps, c'est... Quand quelqu'un il a un programme, c'est pas toi que j'ai expliqué ça, quand quelqu'un il a un programme, qu'on vient, on lui modifie ses habitudes.
Il est déstabilisé.
Hein? Pas bien, il est pas tranquille. Alors imagine-toi chez un jeune homme, tout change.
T'as aussi la crise de
confiance
à 40
ans.
Oui,
la crise de confiance et tout ça.
Ok. Alors, maintenant, on va expliquer, c'est ce que l'Admor Hazaken va expliquer ici, dans ce chapitre. Veiné, on est au chapitre 43.
J'ai passé toutes ces étapes.
Page 279.
Je sais pas quelle page c'est. On commence un nouveau chapitre.
Ah oui, ça va. 279.
Ok. Veiné. On va parler maintenant d'abord de la crainte de bas niveau. Crainte de bas niveau, c'est pas la crainte que j'ai peur, que j'ai pas envie de décevoir un Kadosh Baruch Hu. Crainte de bas niveau, c'est que j'ai peur de Dieu, j'ai peur qu'il m'envoie une punition, j'ai peur d'un Kadosh Baruch Hu. Alors il dit comme ça, il dit cette crainte de bas niveau qu'on a dit, Shehi le kiyum mitzvot avid barer, qui est nécessaire pour accomplir les mitzvot, c'est comme on a expliqué la semaine dernière. Il prit la tsurmera va asetov. Du niveau de tsurmera va asetov, ça veut dire s'écarter du mal et faire le bien. C'est sur cette crainte que Amrou, que le sage ont dit, imenir a en chorma. Dans Pirkei Avot, c'est écrit la chose suivante. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Quel rapport? La crainte, plus le benita, c'est un sentiment qui est dans le cœur. La sagesse, c'est où?
Dans la tête.
Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mishnah dans Pirkei Avot? lorsqu'il est écrit dans Pirkei Avot, donc dans les maximes de nos pères, lorsqu'il est écrit Im en ira en chorma, chapitre 3 de Pirkei Avot, Mishnah 17, il est écrit s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Quel rapport entre la crainte et la sagesse? Seulement, le rapport est très simple. Pourquoi on te dit que s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse? Parce qu'encore une fois, une personne qui n'a pas de crainte d'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce que ça veut dire être soumis devant quelque chose. Il ne sait pas ce que ça veut dire être soumis même devant une sagesse. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire que, à un moment ou à un autre, il faut avoir une soumission. De pas me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dire à la Torah,
mais de
me dire, écoutez, sincèrement, qu'est-ce que la Torah est en train de me dire? Très important ce que je suis en train de dire. Ça veut dire, des fois, tu as un texte et tu as envie de faire parler le texte. Tu as envie que le texte dise quelque chose. Non, le texte n'a pas dit ça. Mais si tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de limite. Tu fais dire ce que tu veux à qui tu veux. C'est-à-dire, tu te dis, bon, bah, il a dit ça, il voulait dire ça. Si t'as pas de limite. C'est pour ça que quand les Rachamim nous disent dans Pirkei Avot, Im en ira, en chorma. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Parce que par définition, la sagesse doit démarrer par la crainte. La crainte, le respect. Ok? Ce qu'il dit ici. Yeshba, prinat katnout ou prinat gadlout. Et là, on va commencer à développer. Dans cette crainte, il y a prinat katnout ou prinat gadlout. Il y a un niveau de petitesse, un niveau de grandeur. En d'autres termes, il y a une petite crainte et il y a une grande crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand on dit katnout et gadlout, c'est un petit peu, bonsoir. Katnout et gadlout, c'est un petit peu comme lorsqu'on parle d'un enfant. La différence entre un enfant et un adulte. On dit qu'il y a katnout des mochin et gadlout des mochin. Il y a la petitesse de l'intellect et la grandeur de l'intellect. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez par exemple un enfant qui a un bonbon dans sa main. Ou qui me voit avec un bonbon dans ma main. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander. Peut-être je vais lui répondre oui, peut-être je vais lui répondre.
Non.
Si j'ai malheur de lui répondre non, qu'est-ce qui va se passer?
Il
va me faire une crise. Pourquoi il me fait une crise?
Parce
qu'il non, attendez. Ouais, c'est réfléchant. Pourquoi il fait une crise?
Parce qu'on lui a refusé quelque chose qu'il avait envie.
Parce qu'il n'accepte pas qu'on peut lui refuser. Et ça le dépasse. Ça le met hors de lui. Comment? Ils m'ont refusé le bonbon. Moi? C'est pas possible. Ça, c'est un enfant. Maintenant, cet enfant, il va grandir. Là, il avait 1 an, 2 ans. Bon, il va grandir. Cet enfant, après, il va avoir 20 ans. Là, il verra le bonbon dans la main de l'autre, il dira rien du tout. Par contre, sur quoi il fera des crises? Sur des choses plus importantes. Si on lui prend sa voiture, si on lui prend son travail, si on lui prend son truc, etc. Après, il va grandir encore plus, il va comprendre qu'il y a des choses encore plus importantes. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé finalement? Est-ce que son intellect a changé? Non, son intellect est resté le même. Est-ce que ses pulsions ont changé? Non, ils sont restés le même. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, il avait katnout des mochines. Avant, il avait un intellect qui était tout petit. Son intellect se limitait au bonbon. Donc, dès qu'il n'y a pas le bonbon, il explose. Mais plus tu grandis, et plus ton intellect grandit. Et plus pour le faire sauter, il en faut beaucoup. Plus on grandit, plus on prend de l'âge, et plus, normalement, on doit être plus long à la détente. Ça veut dire, on est plus long à s'énerver. On est beaucoup plus long à s'énerver. C'est pour ça que normalement, plus on avance dans l'âge, et plus on devrait être comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui, quand ils vieillissent, c'est pas comme ça. Mais, normalement, si on fait les choses selon les règles de la Torah, qu'on avance dans l'étude de la Torah, la Torah nous permet, avec le temps, progressivement, à élargir notre intellect. Dans le sens que plus tu étudies la Torah, et plus ça te rend patient. Et ça, je peux vous dire que moi, je l'ai vu de mes yeux des dizaines, voire des centaines de fois, des gens qui, avant qu'ils assistent à des cours de Torah, tu le voyais démarrer pour un oui, pour un non. Et depuis qu'ils assistent à des cours de Torah, tu les vois dans des scènes de la vie de tous les jours. Tu vois, par rapport à ce que leurs enfants se racontent, par rapport à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, tu vois qu'ils sont plus patients. Tu vois, attention, un caractère, ça reste un caractère. Je dis pas qu'on change du jour au lendemain, mais on apprend à voir les choses plus grandement, d'accord? Plus grandement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de me faire sauter, il en faut beaucoup. Un bonbon ne suffit pas pour me faire sauter. Il faut quelque chose de très grave. On devient plus résistant et surtout, on a un horizon qui est plus large. Plus l'horizon est large, plus l'intellect s'élargit et plus on arrive à gérer. C'est la même chose. Quand je parle de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il y a la petite crainte et la grande crainte. La petite crainte, c'est quand tu as la crainte comme un enfant. C'est exactement comme un enfant. C'est-à-dire, tout son monde, c'est le bonbon. Il a le bonbon, il m'a donné le bonbon, il m'a pas donné le bonbon. C'est-à-dire, s'il m'a donné, je l'ai, il m'a pas donné, je suis pas content. Tout autour du bonbon. Mais rappelez-vous, l'enfant, plus il grandit, et plus, il y a besoin de beaucoup plus pour le faire sortir de ses gonds. De la même façon, t'as la crainte d'Akadosh Baruch qui est une crainte basique. crainte de bas niveau, c'est-à-dire une crainte basique, basique. Ça veut dire que juste, je réfléchis, il m'a donné, il m'a pas donné. J'ai peur qu'il ne me donne pas ce que j'ai besoin. Mais plus tu grandis dans la Torah, et plus tu comprends, hein, quand on te parle d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement la crainte de peur que le soleil te tombe sur la tête. C'est beaucoup plus que ça. C'est parce que quand tu vois ce que Dieu représente, tu vois la grandeur et l'ampleur, etc., tu comprends, tu dis, mais arrête de faire l'imbécile. T'amuses pas avec Dieu. Je joue pas avec Dieu. Quand tu joues ici. Et ça, c'est plus on avance dans la Torah, plus on apprend à grandir. Ça veut dire, vous demandez à quelqu'un qui démarre dans la Torah, tu dis, pourquoi tu fais les musées? Pourquoi t'as peur de Dieu? Il dit, j'ai peur qu'il m'envoie le guéhinnom. J'ai peur qu'il me fasse rater ma parnassa. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Plus tu avances dans la Torah, et c'est pas la réponse que tu donnes. La réponse que tu donnes, c'est pas j'ai peur qu'il m'envoie ma parnassa. La réponse que tu donnes, c'est je comprends que Dieu est tellement grand, je peux pas lui faire ça. Plus tu avances. Ira tata'a, ira ila'a. La petite crainte, la grande crainte. Plus on avance, on évolue dans la vie, et plus on grandit. Maintenant, vous comprenez que, pourquoi je précise bien que c'est plus on avance dans la Torah, puisque quand on n'avance pas dans la Torah, quand on avance que dans la recherche des plaisirs, combien de gens on connaît comme ça? Des gens qui plus ils ont vieilli et plus ils sont devenus capricieux. Mais capricieux, des mauvais capricieux. C'est pas seulement qui retournent à l'enfance. C'est qu'en vérité, ils sont jamais assagis. C'est-à-dire, toute leur vie, c'était, est-ce qu'on m'a donné ce que je voulais? Et c'est pour ça que comme il a l'habitude qu'on lui donne ce qu'il a vu, ce qu'il veut, donc dès qu'il reçoit pas ce qu'il veut, il explose. Combien de gens qu'on connaît comme ça qui ont explosé pour un oui, pour un non? Comment ça se fait? Bonsoir. Il te dit, ici, c'est très simple. Il te dit parce que, normalement, d'après la Torah.
Tu veux un tire-bouchon?
Normalement, d'après la Torah, on te dit, plus tu avances, plus tu grandis. C'est ce que dit la Gemara. La Mishnah dit ça. Elle dit, les sages des Talmidei Chachamim, plus ils vieillissent et plus leur esprit se pose. Mais les sages des ignorants, plus ils vieillissent et plus ils deviennent bêtes. C'est la vérité, il n'y a pas besoin de sortir le Saint-Cyr pour le voir. Hein. Je suis de...
J'ai une question. Allez-y. Par rapport à Job.
Oui.
Bon, ben, il a une grande sagesse, mais bon, enfin, qu'est-ce qu'il a bien fait pour pouvoir vivre comme ça?
Ça, j'en sais rien. C'est, il faut poser la question à Dieu.
Mais c'est ça ma crainte. Moi, j'ai rien fait, et puis après, il est là. Quoi.
Ben, non, ça, il faut poser la question à Kadosh Baruch Hu. Donc. Viesh ba prinat katnu tu prinat gadlu. Dans cette crainte, il y a un niveau un niveau bas et un niveau haut. Et explique. D'accord. Daïn, ça veut dire, mais ça c'est un autre sujet. Hein. On reparlera après si tu veux, mais c'est un autre sujet. Ok. J'ai pas un livre en français. Peut-être quelqu'un qui peut donner un livre en français là-bas. Comme ça, je vous donne les pages automatiquement. Serge, il est à côté de moi, mais il a pas ouvert la page.
Voilà.
270.
Alors.
270.
Voilà.
Merci. Ok. Daïn, ça veut dire. Merci. Chenim Shechet. On est à la page 279, deuxième paragraphe. Daïn, ça veut dire. Chenim Shechet prinat ir azo mit bolenut bigdulat Hashem. Lorsqu'un juif arrive à générer cette crainte en réfléchissant à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Deyou me malé kol almin. Comment Akadosh Baruch Hu emplit tous les mondes? Il est partout. Omaaretz la rakia malar tafkushana. Et que la Gemara nous dit que de la terre jusqu'au ciel, il y a de quoi marcher 500 ans. C'est une image évidemment, mais c'est pas si une image que ça parce que c'est calculé, d'accord? Ça veut dire comme ça. On dit un homme par jour, il marche 10 par ça. Je rentre pas dans les calculs, mais ça fait plusieurs kilomètres, d'accord? Un homme, il marche 10 par ça. Maintenant, on dit que si on calcule le nombre de temps qu'il faut pour un homme pour marcher en un an, la distance parcourue en un an, et ben tu parcours 500 ans comme ça et tu arrives à la distance entre la terre et le ciel. Oh, c'est une image. Qui vit 500 ans? Qui marche 500 ans? Non-stop. Jour et nuit.
C'est une mesure.
D'accord. Pourquoi on te dit ça? C'est une image que le Rav te donne pour te dire, toi tu crois que t'as tout compris. Même si tu marches toute ta vie, tu touches l'infini.
Hein? C'est? 1 800 000 km.
Ah, il a déjà calculé lui, mais c'est une image. Alors.
Il n'y a pas de temps. Au ciel, il n'y a pas de temps.
Ça veut dire quoi?
Là, il est arrivé au moins sur Mars, ou peut-être sur la Lune.
Il avait passé la Lune 6 ou 8 fois. Il y a 300
ans. Ragle achayot keneged kulam. Donc, s'imaginer comment Akadosh Baruch Hu. J'accélère un petit peu ce début du paragraphe, parce que début, ça, on l'a déjà expliqué la semaine dernière. La crainte de bas niveau. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la crainte de haut niveau. Comment aller à une crainte un peu plus évoluée, pas seulement la peur de la punition, et même pas seulement. La crainte de se dire, Dieu, il est tellement grand, j'ai pas le droit de faire ça. Plus que ça encore. Ça, on va développer tout de suite. Donc, וכן, השתלשלות כל המות, למעלה מעלה, הדרום המעלות, אף על פי כן, quand même, 280, נקראת עירזו, עירה חיצונית ותתאה. Cette crainte que je viens d'expliquer, la crainte de se dire que Dieu il est partout, et que tu peux pas lui échapper, et que tu peux pas jouer avec lui, ça s'appelle une crainte de bas niveau. Pourquoi? Mais achar, shenim shechet, mais a olamot, shem levushim, shelamelech akadash baruch hu. On dit parce que finalement, d'où vient cette crainte? Cette crainte, elle vient d'une analyse. Tu analyses les vêtements de Dieu, les moyens d'expression de Dieu. Achar mistater, ou mit alem, comment Dieu se cache, et comment Dieu se voile, ou mit la bech bahem, la chayotam, le kamel, yoteshmein. Ça veut dire, tu dis comme ça. Peu importe cette crainte, comment tu la développes, en disant que j'ai peur que le ciel me tombe dessus, ou en disant que Dieu est tellement grand. Mais finalement, comment elle fonctionne, cette crainte? Cette crainte, tu dis, écoute, Dieu est tellement grand, Dieu il est présent, il est juste devant toi, là. Donc fais pas le malin. Fais pas le malin, il est juste là. Ça s'appelle une crainte de bas niveau. Ça s'appelle une crainte que j'ai une relation de peur avec la chose. Je me dis, il est partout, j'ai pas intérêt à faire le malin.
C'est déjà bien.
Et Dieu, il te montre ça. Vous savez, des fois dans la vie, des fois, on se permet un peu des choses. Et à Kadosh Baruch Hu, après, il faut ouvrir les yeux. Des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie, on comprend pas. Et quand on prend un peu de recul, on dit, j'ai compris. Après, celui qui veut faire l'aveugle, il voit pas. Bon, il voit pas son problème. Et Dieu nous envoie des messages. Il nous envoie des messages qui nous font flipper. qui nous font peur. Mais ça s'appelle la crainte de bas niveau. On est très loin encore de la crainte de haut niveau. Parce que c'est une crainte de bas niveau. T'as peur. C'est la peur. D'ailleurs, même en français, il y a la crainte et il y a la peur. C'est la peur, ce qu'on est en train de dire ici. La peur, tu imagines que Dieu il est partout, que Dieu il est grand, etc. Par contre, ce qui nous intéresse, bon, seulement cette crainte est nécessaire. C'est la porte pour accomplir la Torah et les mitzvot. Ah, maintenant on va passer à la crainte. Ah, cependant, et là on va rentrer plus dans les mots. Page 281, en haut de la page. Allez, j'avance un peu vite, hein, mais c'était des grands paragraphes. Ah, cependant, maintenant on va développer. Vous savez, Aïr, Aïla, la crainte suprême. Ça veut dire, la crainte de bas niveau, c'est la peur d'Akadosh Baruch Hu. Mais la crainte suprême, c'est quoi? La crainte suprême d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi, Irat? C'est Iyir et Bochet. C'est quoi? C'est la crainte de la honte. C'est ce que j'ai expliqué au début du cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Imaginez par exemple, que il y a un lion qui passe devant vous et qu'il a très très fort.
Ah, t'as peur. Tu cours.
Comment vous sentez?
Mal. Pas bien.
Très mal. Et ils avaient faim.
Elle ne tournait pas le dos, elle les regardait dans les yeux,
ils bougeaient pas.
Dès qu'elle se tournait, ils allaient approcher.
Ça, c'est la théorie ou c'est la pratique?
Je sais pas, il te raconte un reportage.
Vas-y.
Il y avait combien de fusils pendant que le reportage tournait derrière?
Ouais.
Vous voyez pas, le reportage, il fallait faire une caméra. Comme il m'a raconté, il m'a dit, ils ont tourné un film. Le gars, il était tout seul.
Et 300. 300 snipers.
Le cameraman est 300.
Voilà, exactement. Alors, reprenons. Imaginez par exemple qu'il y a un lion. Un lion qui arrive. Il est devant vous comme ça, il est très faim. Bon. Donc le lion, il est là, il a faim. Vous avez peur, évidemment vous avez peur. J'ai compris. Mais est-ce que ça veut dire que vous vous êtes effacé devant le lion? Que vous dites, je ne vaux plus rien devant le lion? Pas du tout. Tu dis, moi je reste qui je suis, je m'appelle Mendy Assouline, je reste qui je suis. Et je reste quelqu'un d'important. Sauf que là, le lion, il est plus fort que moi, donc je vais sauver ma peau. Mais à aucun moment je me suis effacé devant le lion. Et je vais vous dire la même chose. Quand par exemple, même devant Dieu, dans la crainte de bas niveau, vous allez comprendre qu'il y a un problème dans cette crainte de bas niveau. Lorsque par exemple on dit à une personne, pourquoi t'as peur d'Akadosh Baruch Hu? Il va dire, j'ai peur parce que j'ai peur qu'il m'envoie le Géhinnom. J'ai peur qu'il m'enlève ma parnassa, j'ai peur qu'il m'enlève ci. Alors on va dire en vérité, t'as pas peur de Dieu, t'as peur de toi. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui compte pour toi, c'est quoi? C'est est-ce que moi, je vais avoir mon gagne-pain, hein? Est-ce que moi, je vais avoir ce que j'ai besoin, hein? Donc, comme je sais qu'il y a un facteur qui risque de m'enlever ça, donc, j'ai peur de ça. Je me suis pas effacé devant Dieu.
C'est pas de façon à
faire. Ah, d'accord.
Je me suis pas effacé devant Dieu. Bah oui. Ça veut dire que je peux avoir peur de quelqu'un.
Pour moi, oui.
Sans m'effacer devant lui. Comme je vais demander à un employé, je vais dire alors, ton patron, je vais dire, je flippe. Mais il a peur de son patron, mais il s'est pas effacé devant son patron. Il pense ce qu'il pense de son patron. Seulement, il a compris que son patron, c'est lui qui décide, donc il se tait. Mais il s'est pas effacé devant son patron. Et malheureusement, on peut être comme ça aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu. On peut craindre Dieu sans s'effacer devant lui. on peut aussi aimer Dieu sans s'effacer devant lui. C'est, je m'efface pas devant Dieu.
C'est pas s'effacer.
Moi, s'effacer, ça veut dire que je me prends toujours pour quelqu'un de très important. Seulement, je me dis, il y en a un qui est plus grand que moi, qui est plus fort que moi, qui peut m'écraser. Donc, comme il peut m'écraser à moi, donc je fais pas le malin, je me fais petit, mais je suis toujours là. Je me suis pas effacé devant Dieu.
Ah, d'accord.
Là arrive la deuxième crainte, la crainte de haut niveau. Vous allez voir comment ça change tout. Quand tu es devant un tzaddik, quand tu es devant un tzaddik, hein, qu'est-ce qu'il y a?
Tu veux
Ah, pardon.
Ah oui.
Il n'y a plus.
Si, si, il y en a, bien sûr qu'il y en a.
Il y en a au
fond. Là-bas.
Il faut des lunettes, on regarde des lunettes là-bas.
Quand tu es devant un tzaddik, d'accord, et là je vais reprendre. Toute personne qui a déjà été devant un tzaddik comprend parfaitement de quoi je suis sûr comprend parfaitement de quoi je veux parler. Quand tu es devant un tzaddik, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens je suis petit, il est grand, il est plus fort que moi? Après, on voit ce qu'il y a besoin. D'accord. Je suis petit, il est grand, il va m'écraser, j'ai peur de lui, etc. Non. Yerebochet, c'est quoi Yerebochet? C'est que t'as la crainte de la honte. C'est quoi la crainte de la honte? C'est que tu t'effaces devant lui. Tu sens que tu vaux rien, tu sens que t'es un microbe. Et donc, t'as même pas besoin de te convaincre et de te dire, tu comprends, il y a un risque, peut-être, que celui-là, c'est un lion, il est plus fort que moi, il va me becter.
Ouais,
non.
Là, tu jauges.
J'ai pas besoin de rentrer dedans. Dans la crainte de haut niveau, exactement comme a dit Dan, il a bien défini. Je n'ai pas besoin de jauger. J'ai pas besoin de me dire qui il est, comment il est, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit. Quand tu t'effaces devant quelqu'un, quand tu as honte de quelqu'un, automatiquement tu te sens tout petit devant la personne. J'ai pas besoin de m'expliquer. Et la vérité, c'est que c'est très rare dans notre vie qu'on arrive à avoir ce sentiment. Vous remarquerez, posez-vous la question maintenant des choses desquelles vous avez peur. Et vous verrez qu'on a très rarement vraiment peur de quelque chose. On n'a jamais peur, en vérité. J'ai pas peur de la chose. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour moi. C'est-à-dire, même quand tu veux dire à un enfant, de quoi t'as peur? Quoi t'as peur? Pourquoi t'as peur de ton père? Il va dire, j'ai peur qu'il va me punir. Qui va donc me punir. Donc il y a toujours le moi. Il s'est pas effacé. Comme je sais que mon père est plus fort que moi sur ça, donc je me dis, je fais pas le malin parce que je sais qu'il va m'enlever à moi quelque chose. Je me suis pas effacé. Alors que le but de la crainte de Dieu, le vrai but de la crainte de Dieu, c'est de s'effacer entièrement devant Akadosh Baruch
Hu. Ça veut dire quoi?
Alors voilà. Vous savez pourquoi quand on est devant un tzaddik, on a...
C'est toujours par rapport à nous.
Pas du tout. Justement.
Ouais,
non.
Non, parce que tu as déjà admis quelque chose.
Non.
Tu as essayé.
Un sentiment, justement. Le sentiment. Je vais t'expliquer ici. Regarde. On va prendre par exemple, puisque tu poses la question, je vais prendre l'exemple sur l'amour. Deux secondes, je prends. Sur l'amour. Quand tu dis par exemple, je te donne un exemple que donnent les maîtres du Moussard. Donne un exemple comme ça. Une fois, il y a un maître qui a vu. Tu entends, Yves? Une fois, il y a un maître qui a vu une personne. Et tu lui as dit, qu'est-ce que tu aimes? Il a dit, moi, j'aime le poisson. Il aime le poisson. Il a mangé le poisson. Il dit, ah bon, tu aimes le poisson? Ah, pourquoi tu le charcutes comme ça? Écoute, c'est très profond la question. Pourquoi tu le charcutes? C'est comme ça que tu traites ce que tu aimes?
J'aime le goût du poisson.
Ah, donc t'aimes pas le poisson? Tu t'aimes à toi-même?
J'aime le goût.
Non, mais j'aime moi-même.
J'aime le goût, j'aime pas le goût.
Seconde.
Oui, c'est
non, mais en vérité, j'aime qui ici? Je m'aime moi-même. Donc, comme j'ai envie de kiffer, je sais que le poisson me fait kiffer. Donc je kiffe le poisson. Donc, j'aime pas le poisson, j'aime moi en vérité. Et quand il va dire j'aime ma femme? Et quand il va dire j'aime mes enfants? Qui tu aimes ici? Est-ce que tu t'aimes et tu as un plaisir pour toi d'avoir une femme, d'avoir des enfants? Ou est-ce que tu les aimes à eux vraiment? Est-ce que tu t'es effacé devant eux? Ou est-ce qu'au contraire, tu profites du plaisir qu'ils te procurent et que le jour où tu te procures plus ce plaisir, t'es pas content?
Non.
Dans le cadre des enfants, c'est pas possible.
Dans tous les cadres de la vie, on a ce problème.
Non,
lorsque tu as un amour de bas niveau, un amour de lequel tu t'effaces pas devant la personne, forcément, à un moment, ça coince. C'est sûr. Parce que c'est le problème. Si, je te donne un exemple. Imagine-toi, par exemple, que je dis, j'aime ici le mango. C'est pas lui que j'aime, c'est moi que j'aime. Donc c'est moi que j'aime.
Enfin, j'ai pas ce sentiment pour le poisson, moi.
J'aime le plaisir que je vais avoir.
Je m'aime à moi. Attends, mais comme je m'aime à moi, j'ai envie de kiffer, donc je prends ce qui me fait kiffer. Et si demain le poisson ne fait plus kiffer, ben je lui dis dégage. Je te veux pas sur ma table. Donc en vérité, le poisson vient dire, tu m'as jamais aimé.
Ça m'étonnerait.
Tu m'as jamais aimé.
Ça m'étonnerait j'aime le saumon d'élevage, je le vois dans les, hein, dans les trucs.
Le poisson, il va te dire, tu m'as jamais aimé.
La crainte de haut niveau.
Attendez, j'ai dit d'avoir l'amour. Pour répondre à la question de Yves. Parce que Yves lui pose une question. Yves lui dit, comment on peut dire que quand un sentiment, il faut s'effacer? Il a raison. Il y a a priori un sentiment. C'est moi qui dois avoir un sentiment. Tu as raison. C'est une question. C'est une vraie question qu'il pose. S'il y a un sentiment, c'est qu'il y a une personne qui a un sentiment. C'est qu'il y a une personne qui aime. Il y a une personne qui a la crainte. Il y a une personne qui a la joie. C'est là que je réponds. Je dis la chose suivante. Je dis ça seulement dans la crainte et dans l'amour de bas niveau. Dans la crainte et l'amour de bas niveau, tout tourne autour de moi. Ça veut dire, est-ce que tu me fais peur? Est-ce que tu me fais kiffer? Et donc, le jour où tu me fais peur, je dis, j'ai peur de toi. Mais demain, je me suis habitué. J'ai plus peur de toi. Donc, je dis, je n'ai plus peur. D'accord. Donc c'est pas que tu n'es pas quelqu'un qui fait peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de toi. Aujourd'hui je t'aime. Demain je ne t'aime pas. Je. C'est que moi. Il y a que moi ici. C'est pas que tu es quelqu'un d'aimable. Tu es quelqu'un qui est aimé. Il y a pas toi. On s'en fiche de toi. Toi t'es un pion ici. Je m'excuse d'être cru comme ça.
Mais ça veut dire que. Mais c'est très. Tu es quelqu'un d'aimable. Ça part du sens.
Ça veut dire comme ça. Et quand il va dire je me suis marié. Tu dis pourquoi tu t'es marié? Pourquoi t'es marié? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je l'aime. Tu dis ah bon, tu l'aimes ta femme? Tu aimes ta femme ou tu aimes le sentiment qu'elle t'a donné? Ou tu aimes le ressenti que tu as.
Bien sûr.
Et si ce ressenti tu l'as plus demain, si tu la trouves plus aussi belle comme avant, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas compris qu'à un moment il faut passer à l'amour de plus haut niveau, c'est-à-dire un amour dans lequel tu t'effaces pour la personne, tu peux pas savoir si tu vas casser la figure. Et c'est la même chose pour la crainte. Si tu as une crainte pour Akadosh Baruch Hu et pour quoi que ce soit dans le monde, qui est une crainte égoïste dans le sens que j'ai peur parce que ça me fait peur à moi. Si demain ça me fait plus peur, alors c'est fini. J'en ai plus rien à faire. Je me suis pas effacé devant la chose. Je me suis jamais effacé. Je dis écoute, lui il est très grand, moi je suis moins grand, donc là je fais pas le malin parce que pour l'instant j'ai pas encore vu comment je peux être plus fort que lui.
C'est le rapport de force.
C'est le rapport de force. Mais quand tu as un rapport de force et que tu fais le petit devant quelqu'un, ça veut pas dire que tu t'es effacé devant lui. Tu dis écoute, il faut que d'abord je jauge comment il est, tu vois, ce Dieu, ce grand Dieu, là il faut que je comprenne comment on peut l'entrelouper.
Dans les deux sens, mais, ça part toujours de nous. Alors.
Bien sûr, tout démarre de nous.
Voilà.
À la base, ça démarre de nous. Mais, faut pas s'arrêter à là. Tout démarre de nous. Tout démarre de nous. La Gemara a dit que lorsque, à un moment, les Chachamim, ils ont demandé qu'on enlève le Yitzhara des femmes. Que j'en ai plus le Yitzhara des femmes. C'est-à-dire qu'ils se marient pour se marier. C'est magnifique. Mais le problème, c'est que les gens se mariaient plus. Ça a duré quelques années. Les gens se mariaient plus. Pourquoi? Parce que tu as raison. Pour démarrer, pour enclencher le moteur, il faut d'abord une pulsion. Cette pulsion, elle doit être égoïste quelque part. J'ai besoin de sentir que je vais avoir quelque chose. Mais après, il faut passer à la deuxième. Après, il faut passer à la deuxième dans laquelle tu dis, bon, maintenant je comprends que pour vraiment avoir la chose, je dois m'effacer devant cette chose. Je dois me sentir petit. Et ça, c'est valable dans l'amour, c'est valable dans la crainte, ce qui est dit ici. Si la seule relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est j'ai peur que le ciel va me tomber sur la tête, d'accord? Alors ça, t'as peur quand t'es petit. Mais après, quand tu grandis, tu vois que bon, le ciel n'est pas tombé sur la tête. T'as plus peur. C'est-à-dire que tu t'es pas effacé devant Dieu. Là vient la vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas que la première était fausse, mais la crainte de haut niveau, qui est Yéré Bochette, la crainte de la honte. Et l'exemple du tzadik, c'est un exemple qui est parfait. Quand tu vas voir le tzadik, t'as deux catégories de gens qui vont voir le tzadikim. T'as des gens qui vont voir le tzadikim et qui ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils vont voir le tzadik et le tzadik, il lui sort un truc. Bah, qu'il lui sort une phrase comme ça que personne ne pouvait savoir. Donc le gars, il tremble. Pourquoi il tremble? Parce qu'il se dit, waouh, il est fort celui-là. Mais il s'est pas effacé devant le tzadik. Il s'est pas effacé. Tu sens petit, mais il s'est pas effacé. Il dit, il est costaud celui-là. Du style, je vais apprendre comment la prochaine fois je vais le. Enfin, je vais pas te parler comme ça, mais lui il est grand. Moi je suis moins grand, mais bon, je suis toujours là. Ça c'est une première façon. Mais après t'as une deuxième façon. C'est pas que tu es dans un calcul. Ah, il m'a chopé. Ah, il m'a attrapé. Ah, il est plus fort que moi. Non. C'est que tu t'effaces complètement. Tu comprends que tu vaux rien du tout. Tu comprends que tu es un microbe. Et là, tu arrives à Yéra Bochette. Là, tu arrives à la crainte de la honte, la crainte révérentielle. Tu te sens petit face à Kadosh Baruch Hu. Exactement comme Abraham. Abraham, il avait cette crainte. Yitzhak aussi, on parlait cette semaine. Mais Abraham est venu, il avait cette crainte. Ça, c'est ce qu'on appelle Yéra, il a A. La crainte de niveau. Alors, je ne sais pas si Yves, je crois que tu avais encore une question. Est-ce que j'ai répondu à la question ou il y a encore un élément? Hein?
Non. C'est même pas une crainte, c'est plus un amour qu'une crainte.
C'est autre chose.
Même pas.
D'autre chose. Parce que, regarde.
La crainte, je comprends pour le corps de la sanction, mais à la rigueur que je suis prêt à m'effacer. Ou à,
je comprends ta question.
Plus, la crainte,
est un sentiment qui me pousse à me retirer de quelque chose. Prendre la distance. Alors que l'amour, ça me pousse au contraire à avancer vers la chose. Il faut les deux. Il faut l'amour et il faut la crainte. Seulement, voilà, il y a les deux, mais il faut apprendre à arriver à la gamme supérieure. Et là, la vérité, quand on réfléchit, j'essaie de réfléchir à ça. On se rend compte que c'est un niveau qu'on n'atteint pas forcément, ce niveau-là. C'est un niveau qui est difficile. Non, mais c'est un niveau qui est difficile d'accès. C'est-à-dire te dire aimer Dieu et craindre Dieu, mais de façon complètement désintéressée, finalement. Vous savez, c'est écrit dans les Sfarim que c'est la raison pour laquelle, quand on passe devant un tzaddik, on a très peur. Parce que comme le tzaddik, lui, il a une grande crainte d'Akadosh Baruch Hu et une crainte complètement désintéressée complètement, le tzaddik, sans le vouloir, mais c'est comme ça, il véhicule ça autour de lui, il génère ça autour de lui. Et quand c'est pour ça que quand tu vois un tzaddik, vous savez, nous on voit maintenant aujourd'hui les vidéos du rabbi, voilà, une vidéo du rabbi qui tourne là-bas. Tu vois les vidéos du rabbi. Les gens croient que tout le rabbi avait toujours les chassidim à côté de lui, etc. Vous savez que lorsque le rabbi il sortait de son bureau, les bachot et les yeshiva, ils allaient se cacher. J'ai des copains qui m'ont raconté, j'étais tout petit. Ils allaient se cacher. Ils avaient peur que le rabbi le regarde. Je sais pas comment expliquer ça. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas qu'ils disent, j'ai le directeur qui arrive. C'est pas, il y a le directeur qui a le dirlo qui arrive, il faut qu'on se cache. Non.
Il avait une aura.
C'est qu'il y avait une aura tellement forte que tu te sentais petit. Tu te sauves. Que j'ai pas envie de dire comme des souris, mais. Tu te sauves. Tu te sens petit.
Vous ressentez ça quand vous voyez un phénomène naturel à travers la télé ou demain vous voyez un volcan en éruption,
oui.
vous sentez ridicule,
oui.
infime. Vous voyez un tornade, vous voyez des images incroyables à la télé, vous vous dites.
Oui, mais là il y a deux réactions possibles. Première réaction possible, c'est de dire j'admire cette chose-là, je respecte, mais je reste qui je suis, je ne me suis pas effacé dans cette chose-là. Après, il y a un niveau plus fort, c'est de dire. Je m'efface complètement dans cette chose. C'est-à-dire, c'est pas que aujourd'hui t'es plus fort et demain c'est moi qui serai plus fort. Il y a pas de relation de force. Il y a pas de relation de force. Comme a dit Dan, je ne juge pas.
Non, mais en tout cas, je sais pas comment les gens vivent des choses ou des expériences comme ça, mais quand vous voyez de tels phénomènes, vous vous dites, moi par rapport à ce phénomène, je suis.
Rien.
J'ai une molécule, je suis un atome. Derrière, il y a la puissance divine. Et
donc je sens que je suis rien.
Mais je suis rien du tout. Ouais. Je crois maîtriser ma vie. Mais finalement,
tu te sens.
Mais la question est, est-ce que ce sentiment suffit pour nous arrêter de faire une avéra?
Non.
C'est ça le problème.
Il y a l'impact.
C'est bien ça, c'est très bien.
Il y a l'impact sur le coup.
Il y a l'impact sur le coup, effectivement. Après, le naturel, chasser le naturel.
Si vous voulez, chez le tzaddik, et pas que chez le tzaddik d'ailleurs. Ce niveau est tellement fort. C'est-à-dire tellement il sent qu'il se sent petit devant Dieu qu'il arrive même pas à fauter.
C'est-à-dire il est connecté.
Il n'arrive pas à fauter. Il n'arrive pas, il tremble. C'est-à-dire son Yitzhara, il essaye même pas, il peut pas, il n'arrive pas. Il se sent un microbe. C'est pas qu'il se dit bon, il est plus grand, je suis plus petit. Papa, mais là j'ai pris un peu d'assurance. Non, il s'est complètement effacé. Hier à Bochette.
Finalement, ce que tu nous proposes, c'est d'enlever un voile qu'on ne peut pas enlever.
Bien sûr, non, attention, pas du tout. C'est à un niveau que le tzaddik, il arrive à faire ça constamment. Nous, on n'arrive peut-être pas à le faire constamment, mais de temps en temps, on peut le faire. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Il faut arrêter d'avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est égoïste. C'est vrai. On a une relation avec Dieu qui est égoïste. Pourquoi tu fais les mitzvot? Tu veux qu'il te récompense? Alors ça veut dire que c'est qui Dieu? C'est toi Dieu. Tu bosses pour qu'il te récompense à toi. C'est égoïste.
C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, d'aller avoir le.
Non, c'est faux. Rosh Hashanah, on n'est pas en train de te dire, on n'est pas en train de dire travail pour être récompensé.
Non, mais on entend le. Non, message, mais...
c'est... Ah oui, on entend ce qu'on veut entendre. On entend ce qu'on veut entendre. On avait fait le cours avant Rosh Hashanah. Oui, mais je comprends. C'est très grave ce qu'on est en train de dire. Si tu dis que toute la raison pour laquelle je sers à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que je veux qu'il me paye, ça veut dire qu'en vérité, le Dieu, c'est moi. C'est moi le Dieu. Et qu'en vérité, je me sers à moi. Et que Dieu est un moyen pour obtenir ce que je veux. Oui, je suis désolé, je suis un peu cru, mais c'est ça.
C'est ça
ou quoi?
Comment on peut avoir
ça? C'est que moi je veux ça, moi je veux ça, donc Dieu était le moyen pour que je reçoive ça.
C'est comment depuis tout petit, on entend des discours.
Mais c'est pour ça que j'explique. C'est pour ça que j'explique qu'il faut démarrer par ça, parce qu'il faut un enclencheur, il faut amorcer. Mais ça, c'est la crainte de bas niveau. Il ne faut pas s'arrêter cette crainte de bas niveau.
Quand tu éduques les enfants.
De la même façon que dans notre vie, quand j'étais petit et maintenant mon cerveau a évolué. De la même façon, ma relation avec Dieu doit évoluer. Elle ne doit pas rester comme ça primaire. C'est primaire. J'ai peur, il va me faire ci, j'ai peur. Qu'est-ce que tu racontes? Une fois, il y avait un chassid comme ça, qui était un peu comique, mais très intelligent et très, très profond. Vous savez, chez les Ashkenazim, ils se lèvent, la première nuit des Slichot, c'est la semaine avant Rosh Hashanah, première nuit des Slichot, c'est le Motzei Shabbat. Le Motzei Shabbat, samedi soir avant Rosh Hashanah, au milieu de la nuit, entre 1h et 2h du matin, tout le monde va dans la synagogue Ashkenaz, comme cette année. Tout le monde va dans la synagogue Ashkenaz pour aller faire les Slichot. C'est pour ça la synagogue Ashkenaz. Alors une fois, il y avait comme ça un chassid, très grand chassid, qui était un peu un taquin comme ça, Shmuel Munkes, qui était invité chez une famille.
Moi, je travaille demain.
Invité, dans une auberge. Et qui gérait cette auberge, c'était un vieux monsieur, une vieille dame, qui avait un calepin dans lequel ils notaient leurs fautes, qui était organisé, tu vois. Ils notaient leurs fautes, je sais pas vous voyez la situation. Ils notaient les fautes qu'ils avaient faites, tu vois, ils avaient un calepin, ils savaient sur quoi faire, tu vois, etc. Organisé. Bon, très bien, magnifique, c'est beau. Et Rav Shmuel Munkes, il est là, je crois que c'est Rav Shmuel Munkes, il est là dans sa chambre, et il entend, un peu avant le milieu de la nuit, on toque à sa porte. C'est le vieux monsieur, le voyage, qui toque à sa porte, qui lui dit, Slichot! Il fait exprès de pas répondre. Alors là, tu commences à y aller, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Un juif qui se réveille pas au Slichot, c'est première Slichot de l'année, Rosh Hashanah, ça arrive, etc. Et il toque à la porte. Il attend. Et à la fin, au bout de quelques secondes, il ouvre la porte. Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors il dit, ben, Slichot! Il dit, bon, et c'est quoi les Slichot? À quoi ça sert? Alors. Oui, avec un chapeau et tout, la totale. Il dit, c'est quoi les Slichot? À quoi ça sert? Il dit, ben, regardez, vous voyez ici. Il y a un jardin, il y a une poule, il y a une vache, etc. On va aller prier à Dieu pour que la vache, elle va donner du bon lait. Pour que la poule, elle va donner des œufs, et que voilà, quoi, comme ça, on aura de quoi manger. Et là, il commence à réfléchir, à dire, ah, un vieux monsieur, une vieille madame, il se réveille à 2h du matin pour aller demander que leur vache, elle va avoir du lait. Et il a commencé presque à aller tourner. Alors, évidemment, ils ont pris ça au premier degré. Donc, ils ont dit, mais c'est quoi celui-là? C'est qui ce renégat? Etc. Après, ils ont réfléchi quelques secondes, ils ont compris qu'il était en train de leur faire passer un message ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? À votre âge, vous avez 80 ans, t'es en train de me dire, je vais aller pour aller demander que ma vache elle a du lait? C'est ça ce que vous demandez maintenant? Tu vas te lever pour dire, je vais me lever à 2h du matin pour acheter Dieu, comme ça il va me donner du lait pour ma vache? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut élargir l'horizon. Tu vas aller pour t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. T'es heureux de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On verra la Parnassa après. La Parnassa c'est un autre problème. Dieu te l'enverra, t'inquiète pas. Mais il faut élargir les horizons. Enfin, vraiment s'effacer devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il leur a dit sur Chassid. Je trouve une parole qui est très très juste, qui est très profonde. Ça veut dire que c'est pas faux. C'est vrai qu'ils vont demander du lait pour la vache et qu'ils vont demander des œufs pour et qu'ils vont demander que la poule elle donne des œufs. C'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est ça les slichot. C'est ça les slichot.
C'est très terre à terre.
Ça veut dire que quand t'es parti faire les slichot, le gars il s'est levé un mois. À quoi il a pensé? Il a pensé à sa boutique. C'est quoi ça?
Non, il a pensé au pouvoir que Dieu a pour
lui. Oui, mais il a pensé à sa boutique. Oui. Il a dit, écoute, j'ai envie de balader dans la boutique, donc voilà. Ah ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut pas dire que leur prière va être moins importante ou leur croyance?
J'ai pas dit que c'est un incroyant. Ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut se rendre compte qu'il y a un problème.
Un problème de niveau, disons.
Mais bien sûr qu'il y a un problème de niveau. Le gars, il est parti, il s'est levé, etc. Tu sais pourquoi tu t'es levé? Je suis levé pour que ma boutique elle marche.
Mais qu'est-ce qu'on fait, Mendy, quand tout le monde a la journée des bras rotes? On remercie Dieu.
Toi, tu n'étais pas au cours avant Rosh Hashanah. On a fait un cours avant Rosh Hashanah, c'est ça.
Non,
je sais pas là. Je sais pourquoi. Oui, t'as pas pu venir. On a fait tout un cours sur ça. Je crois qu'on l'a enregistré d'ailleurs. Alors, on a fait un cours avec la tefila de Hana, vous vous rappelez? Le cours hors série qu'on a fait. D'accord? Ce qu'il nous dit ici, Iraïla. Mais bon, si tu veux, on trouvera l'enregistrement. Ah, Haïra, il a un.
C'est mon âme qui a soif.
Exactement, c'est mon âme qui a soif. Même si demande la matérielle, c'est mon âme qui a soif. Yerebochet. Reprenons dans les mots. Page 281.
Ah, Aïra est là. Cependant, la crainte supérieure. Yerebochet, qui est une crainte. La crainte de la honte. Ça veut dire, je me sens petit, je m'efface. Veïra pnimit. Et une crainte intérieure. Profonde. Sheinim shechet ipnimit a elokut shibetoch olamot. Cette crainte provient du fait que tu réalises, tu comprends à quel point Akadosh Baruch Hu il est grand. Et tu comprends que Ira Ila, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur d'Akadosh Baruch Hu comme tu as peur d'un tzadik. Si tu te sens plus, on n'a pas peur d'un tzadik de la même façon qu'on a peur d'un roi. Quand tu as peur d'un roi, tu dis le roi il est grand, moi je suis petit. Mais je ne suis pas effacé devant le roi. Simplement, je me dis, j'ai peur de lui, il a plus de pouvoir que moi. Mais quand t'es devant un tzaddik, ça n'a rien à voir. C'est pas que tu dis, lui, il est grand, moi, je suis petit. Si tu dis, je n'existe pas. Je suis rien, je suis un microbe ici, je suis rien du tout. Donc ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un exemple qu'il donne ici. Différence entre le sentiment qu'on a face à un roi et le sentiment qu'on a face à un tzaddik.
C'est difficile parce que le tzaddik, je le vois, je le touche, j'ai le contact avec ça. Et là, on me demande d'avoir ça avec quelque chose de virtuel.
C'est
une bonne question,
c'est vrai. C'est vrai.
Ça revient encore une fois à la question de la deux semaines, c'est matérialisé et immatériel.
Oui, ça on avait expliqué ça. On avait expliqué que ça, on n'a pas le choix, il faut beaucoup beaucoup réfléchir pour essayer de matérialiser au maximum et en tout cas de se conceptualiser au maximum ces concepts, c'est toutes ces idées, de réussir à les imaginer. C'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion. Non, mais il faut y réfléchir beaucoup. Il faut réfléchir.
Mais déjà, ce qui est immatériel, c'est beaucoup plus important que le matériel.
Oui.
Une personne, donc, même si on a honte devant quelqu'un qui a une certaine connaissance, une certaine aura, et qu'on se sent nu devant lui, ça, j'ai déjà.
Mais il faut créer une relation avec la chose.
Bah oui, mais bon, cette personne-là, un jour ou l'autre, peut-être que je peux avoir une autre idée devant lui. Si aujourd'hui je me sens comme ça, mais demain peut-être que je me sentirai autrement, alors que nous avons une puissance supérieure qu'on n'a pas à le voir, mais on n'a qu'à ressentir.
La question est la suivante. Est-ce que je sens que je me suis effacé devant la chose? Ah, c'est la question. Voilà. C'est ce qu'il dit ici.
C'est plus important qu'une personne. Hein.
Et ça, et là on comprend, vous voyez, ce chapitre-là, moi, il me fait beaucoup réfléchir. Particulièrement celui-là, le chapitre 43. Parce que le chapitre 43, c'est une remise en question, en vérité, sur toute notre vie. Au Hachem, bon, on n'est plus des enfants, on avance dans la vie. Bon, un enfant, c'est un enfant, mais après, tu prends une vitesse de croisière, et tu restes à peu près dans cette vitesse de croisière. Et là, c'est une remise en question. Tu dis, quelle relation j'ai avec Dieu? Est-ce que j'ai la relation d'un enfant ou j'ai la relation d'un adulte? Quelle relation j'ai avec quelqu'un de jour? Est-ce que j'ai une relation intéressée ou est-ce que j'arrive à avoir au moins sur quelques éléments une relation désintéressée? La réponse est très compliquée. Mais en tout cas, il faut réfléchir à ça. Et c'est sur ça qu'il dit, en bas de la page 180, « Allez à Amrou, sur cette crainte, les sages ont dit, « Imen Chochma en Ira ». S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Ça veut dire comme ça. Il est décrit comme ça. « Imen Ira en Chochma, Imen Chochma en Ira ». Je reprends. Dans Pirkei Avot, il est décrit, « S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. » Par quoi j'ai démarré? Ça veut dire qu'il y a une crainte, il y a une sagesse qui est suivie d'une crainte. C'est pas un hasard ce que dit la Non. On te dit, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Ça veut dire que dans l'ordre, j'ai une crainte, une sagesse et une crainte. On est d'accord?
Sagesse encore?
Non, pas du tout. Je répète. David, s'il n'y a pas de crainte,
il n'y a pas de sagesse.
C'est la même. D'accord? Il n'y a pas de crainte. Ça veut dire que
c'est pas la même sagesse.
Mais c'est la même, évidemment, c'est la même. Tu vas comprendre tout pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai d'abord une crainte numéro 1, qui est suivie d'une sagesse, et après une crainte numéro 2. C'est quoi cette crainte numéro 1? C'est quoi cette crainte numéro 2? La crainte numéro 1, c'est la petite crainte. La crainte de bas niveau. Celle dans laquelle j'ai peur des cas de Jean-Roux. J'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Il me fait peur. J'ai peur de lui comme un roi. C'est très bien. Mais il me fait peur à moi. J'ai peur de ne pas avoir ce que j'ai envie. Ça, c'est la petite crainte. Cette crainte me permet d'arriver à Chochma. C'est quoi Chochma? Il va expliquer tout de suite. Chochma. Si vous décomposez le mot Chochma en deux, Chochma, ça me donne Koach Ma. La force du questionnement. la force de s'annuler devant quelque chose, la force de se réduire. Ça veut dire que cette crainte, le but de cette crainte qui est égoïste, dans laquelle j'ai peur pour moi, c'est de m'amener à Chorma, à un niveau dans lequel finalement je me dis, mais attends, ma, qui suis-je, ma. Et là, quand tu t'effaces, c'est là que tu arrives à la deuxième crainte. La crainte dans laquelle tu as la crainte révérentielle devant Dieu, la crainte de la honte, tu te sens petit. Donc c'est pour ça qu'on dit Im el ira el chorma. S'il n'y a pas de la crainte numéro 1, tu peux pas avoir l'annulation devant Dieu. Parce que tu l'annules devant qui? Tu n'as pas peur. Mais s'il n'y a pas, d'accord, non plus, l'annulation devant Dieu, il n'y a pas la deuxième crainte. Et ça, c'est l'ordre de Pirkei Avot.
Donc la première
crainte. Oui, comme quoi, c'est pas un hasard. Im el ira el chorma, im el chorma el ira.
On peut pas voir ça aussi que comme quoi s'il n'y a pas de crainte. Non, c'est-à-dire que la première crainte, elle emmène la sagesse.
Oui,
et
mais
la sagesse et la crainte qu'on a, elle emmène la.
C'est quoi la sagesse? J'entends ce que vous dites. C'est quoi la sagesse pour vous?
C'est la crainte.
Mais c'est quoi la sagesse? Comment définir la sagesse? Comment vous définissez un homme sage?
Quelqu'un qui a tiré un.
C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses.
Il le date.
C'est quoi un homme sage?
Qui se tient bien, qui se tient. Respectueux.
Un homme intelligent. Comment vous définissez?
C'est réfléchi.
Qui
sait réfléchir.
Non. Il est face à des problèmes.
Oui.
Il sait comment les
comprendre. Comment on arrive à réfléchir? Vous savez comment on arrive à réfléchir?
C'est celui qui ne dédaigne pas les conseils des autres.
Exactement. C'est la définition de la Torah, ça. Dans le langage des hommes, nous, aujourd'hui, on croit. C'est une erreur.
Hazak,
il a pris Pirkei Avot. Hazak. Nous, on croit dans le langage des hommes, et ça, vous allez comprendre comment ça rentre parfaitement avec la crainte, la sagesse et la crainte. Dans le monde d'aujourd'hui, on croit qu'une personne qui est sage, une personne qui est intelligente, une personne qui connaît beaucoup, qu'il a à dire sur tout. N'importe quel sujet que tu lui donnes, il a quelque chose à dire. Il a beaucoup de culture. Dans la Torah, on t'explique qu'une personne comme ça, c'est une personne qui est bête. Celui qui croit qu'il connaît tout, ça veut dire qu'il connaît rien.
Ah, bien sûr.
Par contre, quelle est la vraie sagesse? C'est celui qui arrive à se remettre constamment en question. Et vous remarquerez que c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Comment on règle un problème? C'est quand tu arrives à tout remettre à plat. T'as pas peur de tout remettre à plat. C'est ça que les grands gestionnaires, ils vont vous dire, j'ai pas peur de faire quelque chose pendant 2 ans, pendant 10 ans, et de tout remettre à plat et de dire je me suis planté. Pas grave. Ça, il fait une fine force,
ça. Ouais, ça a été repris par Platon. Je sais que je ne sais rien.
Enfin, lui, il n'avait pas peur de se tromper.
C'est hein, parce que tu as compris que tu n'as pas compris.
Ah. Tu as compris, voilà.
C'est comme ça, hein.
Ouais.
Voilà. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de te dire ici la chose suivante. On te dit que la vraie sagesse d'après la Torah, c'est quoi? C'est la capacité de s'effacer devant quelque chose. Comment je peux comprendre un texte? La condition pour que je comprenne ce texte, c'est quand je m'efface devant ce texte. Quand j'arrive ce soir au cours de Tania, et je me dis, qu'est-ce que le Tania peut m'apprendre aujourd'hui? Si dès le départ, j'arrive, je dis, bon, allez, viens, on va voir ce que vous nous racontez aujourd'hui, etc. Mais dès le départ, je dis, bon, je le regarde de haut. Il va rien t'apprendre. Pas parce qu'il a rien à t'apprendre.
Parce que
toi, t'es bête. Tu crois que tu connais tout. Quand tu crois que tu connais tout, t'écoutes plus. Mais quand tu viens avec une humilité à l'omètre du collègue, tu dis, j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau ici pour moi. Tu peux apprendre de tout. On peut apprendre de tout. Il y a aucun élément dans le monde qui a, deux secondes, il y a aucun élément dans le monde qui a rien à nous apprendre. Tout à nous apprendre. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux. La chorma, c'est quoi la chorma dans la Torah? C'est la force de l'annulation. Et c'est d'ailleurs, c'est expliqué dans la Kabbalah, hein, à quel moment arrive l'idée? À quel moment arrive une idée? Des fois, t'es bloqué sur un problème pendant des fois des mois. Et à un moment, pac, il y a une idée. À quel moment arrive l'idée?
L'éclair.
Alors les gens, ils pensent, il y a un éclair, on le sent. Après, cet éclair, peut-être, il faudra des mois pour le développer, mais l'éclair a été un déclin, c'est sûr, ça. Il y a un éclair. D'où vient cet éclair? Vous savez à quel moment il vient cet éclair? Cet éclair, il vient à un moment dans lequel il y a un vide.
Quand tu ne penses plus.
Il y a un vide. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es dans un flou total. Tu dis, j'ai rien compris. Et tu te sens petit devant le problème. Et là, quand tu comprends que tu te sens petit devant le problème, là, ton cerveau, d'accord, pac, il a une idée. Ouais. Ça veut dire, c'est pas quand tu attaques un problème et tu dis, ah, mais c'est rien, je le connais, etc. Là, tu trouves rien du tout. Mais quand tu t'effaces devant la chose, c'est là que tu as koachma. C'est quoi koachma? C'est koachma. La force du questionnement. Pas la force de dire j'ai tout compris. Ça, c'est un chmar, ça. C'est la force de dire ma. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Qu'est-ce que je connais pas encore? Et ça, c'est une force. Et quand tu as cette force-là, la force de t'effacer devant quelque chose et de te poser la question, qu'est-ce que je connais pas encore? Qu'est-ce que je connais pas? Quand tu t'effaces devant quelque chose, ça, c'est la chorma. Et c'est, maintenant, on comprend beaucoup mieux l'ordre. Imen ira en chorma. Imen chorma en ira. S'il n'y a pas de crainte, la crainte de base, Si tu ne te sens pas petit devant la chose, si dès le départ tu te sens, t'as pas peur d'un cadeau en roue, tu vas même pas chercher à voir ce qu'il te raconte, t'en as rien à faire, tu calcules pas. Donc pour démarrer, t'es obligé d'abord d'avoir peur d'un cadeau en roue. Parce que sinon tu le regardes même pas, tu dis mais il m'intéresse pas. Je fais ce que je veux, je peux me faire ce que lui veut, pourquoi tu veux que je vois ce que lui veut en haut? Moi je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça on dit d'abord tu démarres par la crainte. Tu dis écoute, c'est comme ça, t'as pas le choix, sinon gay, non, papa. Ça c'est la crainte de bas niveau. Et c'est comme ça qu'on démarre. Comme ça, t'es obligé, le gars il dit bon, il faut que j'écoute ce qu'ils ont à me raconter. D'accord, tu écoutes. Mais là quand t'écoutes, passe à la phase 2 maintenant. La phase 2, c'est de dire bon, d'accord, j'ai compris que. D'accord, j'ai compris, j'ai mordu l'hameçon. Mais maintenant il faut que je me pose la question, ma, qui suis-je par rapport à ça? En quoi ça m'intéresse? Qu'est-ce que ça m'amène dans la vie? Et là, automatiquement, tu t'effaces devant la chose. Et quand tu t'effaces devant un Kadosh Baruch Hu, là, tu arrives à la vraie crainte, la crainte qu'on cherche, qui est la crainte dans laquelle tu t'effaces devant un Kadosh Baruch Hu. Im anira en chorma. S'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas l'annulation devant Dieu. Mais s'il n'y a pas l'annulation devant Dieu, il n'y a pas la crainte numéro 2.
J'aurais voulu émettre une petite observation. C'est bien, c'est vraiment un plaisir d'avoir une certaine sagesse pour soi, hein, intellectuel, enfin bref, comme vous voulez, mais être trop éduqué, parfois dans un monde d'abrutis, c'est pas une bonne chose. Oui. Parce qu'on se fait écraser.
On est intelligent.
Non, non, mais on est à la fin, au moment quand on comprend.
Bah oui, vous savez, on parle beaucoup des.
Parce que personne ne va te comprendre.
Ben oui, on appelle ça les imbéciles heureux.
Je connais ça. Hein?
Ah, oui. Les imbéciles sont heureux, ils ont toujours pas de problème.
Il faut qu'ils fassent le travail de Shlomo Ameler qui est allé au niveau de chacun pour expliquer
la raison.
C'est la réponse, oui, mais c'est la réponse à lui donner.
Non, mais ce qu'il veut dire, comme M. Gershon est très intelligent, il veut dire que parfois, être trop intelligent.
Non.
D'accord. Et on est dans un monde dans lequel, des fois, quand t'es intelligent, tu dis j'aurais mieux fait de pas comprendre. Il y a des choses, tu dis j'aurais mieux fait de pas voir. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas passer à côté. Donc, Imanira, Entrochma, Imanira.
282.
Maintenant,
comment on s'annule?
Comment on s'annule? On se remet en question constamment. Ce qu'il va dire ici. Chorma. Vous avez la réponse tout de suite. Vous aurez dû demander ma chère. Alors, tout de suite là.
Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête. S'annuler, c'est quelque chose.
S'annuler, c'est comprendre que je suis petit devant quelque chose.
C'est même plus. Non, même plus.
Je me fasse devant la chose.
Non, c'est même plus fort que ça, s'annuler. Je sais pas si. S'annuler, c'est la valeur zéro. Ça veut dire qu'il y a un moment.
Oui.
Vous avez un intellect, vous avez des connaissances, vous avez des réflexions, vous avez des raisonnements, vous avez certaines choses. Et il y a un moment.
Il y a un flou.
Toutes ces applications que vous avez dans le cerveau, tous ces raisonnements que vous avez, toute votre éducation, tous vos automatismes. Mettez ça de côté.
C'est pas ça, mettre de côté. Je donne un exemple. C'est qu'en fait, on peut donner un exemple aussi. C'est comme par exemple lorsque vous prenez une graine, vous la mettez dans le sol.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui va se passer avec cette graine?
Elle va pourrir.
Elle va pourrir. Et à quel moment elle va commencer à germer? Au moment où elle a entièrement pourri. Mm-hmm. Dès qu'elle a entièrement pourri et qu'il ne reste plus rien de cette graine, c'est là qu'elle va commencer à pousser. C'est là que l'idée commence. C'est-à-dire l'idée vient du néant. C'est-à-dire dès qu'elle a entièrement pourri, c'est là que. Pourtant, elle était là, c'est moi qui ai planté la graine. Mais dès qu'elle arrive au néant, c'est là qu'arrive ex nihilo, la création. Et c'est comme ça une idée. Une idée, c'est presque ex nihilo. Ça veut dire qu'il y a un blanc et un grand blanc et un néant. Je vais dans la même direction. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire un blanc. À un moment, on doit passer par un blanc. C'est bien de passer par un blanc.
C'est ce qui. Quelque chose de. De religion, je ne parle pas de. Bouddhisme ou l'hindouisme ou des gens comme ça qui arrivent à justement arriver à ce
oui mais eux ils font ça en s'extirpant de la matière, ça veut dire en quittant la matière. Nous c'est pas ce qu'on cherche.
Non j'entends bien,
on cherche à rester dans la matière. D'accord. Sans substance. D'accord, ouais, exactement.
Mais comment rester dans la matière en s'annulant?
Quoi?
Comment rester dans la matière en s'annulant?
Tout est dans la réflexion.
C'est si je m'annule,
Non, tout est dans la réflexion. Réfléchir. Plus je réfléchis, plus je comprends que je suis petit devant quelque chose. Alors, dans les mots. Mais on va répondre à votre question. Dechorma. Je suis à la page 282. Des chorma, la chorma, i koach ma. C'est quoi chorma en hébreu? Si vous décomposez le mot chorma, ça me donne koach la force m'a du questionnement. D'ailleurs, vous savez qui a parlé comme ça? Moshe Rabbeinu, Moïse. Il a dit, Venachnu et nous, ma. Qui sommes-nous? Ça veut dire qu'il est dans le questionnement. Pour te dire Moïse, si Moïse il n'a pas compris, qui a compris? Même Moïse, il est dans le questionnement. Et qu'est-ce qu'a dit Avraham Avinu dans la paracha la semaine dernière? Ve'anori afar va'efer. Il parle à Dieu. Il dit, moi je ne suis que poussière et cendre. Poussière et cendre.
Ah, c'est ça, il s'est annulé devant Dieu.
Voilà. Il s'est complètement effacé. Ça, c'est le niveau de Tzadikim. Il s'est effacé 24 jours. Il s'est effacé complètement. Koharma, la force du questionnement. Comme il est écrit dans Job, vous avez parlé de Job. Ve'achorma me'ain timatze. Dans Job, il est écrit, la sagesse provient du néant. C'est écrit clairement. La sagesse provient du néant.
C'est l'exemple de la plante.
Exactement. Ah oui, la sagesse provient du néant. C'est-à-dire, ne crois pas que la sagesse provient que quand tu as 1 plus 1 plus 1 plus 1, à un moment tu as 100, et après tu vas faire plus. C'est pas des mathématiques. La sagesse, c'est pas des mathématiques.
Bah oui.
Pas dans le sens que j'ai 100, demain j'aurai 200, après j'aurai 300, et j'augmente. Ça marche pas comme ça, la sagesse. La sagesse, quand tu t'apprêtes à étudier un sujet, tu dois t'effacer complètement devant le sujet. Et d'ailleurs, vous savez, on raconte dans la Gemara que le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem sont deux approches complètement différentes. C'est pas du tout la même façon d'étudier. C'est des méthodes de réflexion différentes, des structures différentes. Et le Talmud de Babylone était étudié et enseigné en Babylonie, et le Talmud de Jérusalem était enseigné en Eretz Israël. Et il y avait parfois des gens, des rabbanim, qui allaient de Babylonie en Eretz Israël ou le contraire. Et donc du coup, ils étaient obligés de s'adapter à une autre façon d'enseigner. Et de comprendre, surtout, une façon d'étudier. Qui n'est pas du tout la même façon. Même aujourd'hui, quand on étudie les deux Talmud, c'est le même sujet, mais c'est des façons complètement différentes d'analyser les choses. C'est pas du tout la même façon.
Le langage
n'est pas le même, les techniques ne sont pas les mêmes, ça n'a rien à voir. Et on raconte justement, qu'il y avait, c'est un exemple, hein, il y en a beaucoup, mais on raconte l'exemple d'un maître qui s'appelait Rabbi Zera, qui lorsqu'il a fait comme ça, lorsqu'il a fait sa aliyah, il a jeûné 40 jeûnes, pour oublier la façon de réfléchir, la façon d'étudier de Babylonie. Il a jeûné pour demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider à oublier, pas effacer le disque dur. On n'a pas le droit d'oublier une étude, c'est assourd. Mais d'oublier la méthode, ça veut dire de se sentir petit face au Talmud de Jérusalem, comme ça il va réussir à comprendre qu'est-ce que les maîtres de Jérusalem peuvent lui apprendre. Parce que s'il arrive avec ses connaissances, son vécu, et il a dit bon, je vais écouter ce que vous allez me dire, c'est impossible qu'il va comprendre. Avec toutes ses connaissances, il ne peut pas comprendre ce qu'ils vont lui dire.
Il se laissera pas.
Et d'ailleurs, vous savez, on dit que dans les sphères célestes, parce que les Neshamot s'élèvent tout le temps, de niveau en niveau. Et on dit que lorsque les Shemot s'élèvent de niveau en niveau, entre chaque niveau, il y a ce qu'on appelle le Nahar Dinor. Ouais. C'est un fleuve de feu. Une image. C'est un fleuve, et c'est très sérieux ce que je vous dis. Chaque Neshama, parce que les Neshama n'arrêtent pas de monter. C'est d'ailleurs pour ça que, si tu en as dit, c'est les Lunishma, tu as dit
Frecha Bat Yehuda.
Frecha Bat Yehuda. D'accord? On dit que c'est les Neshama et une Elia. Chaque fois qu'il y a la date d'anniversaire d'une personne arrive, on dit que les Neshama s'élève, que les Neshama est une Alia. D'accord? Pourquoi elle s'élève? Parce que chaque année, dès qu'on arrive à une date ronde, la Neshama s'élève d'un niveau en niveau. Mais le problème, c'est que le niveau supérieur dans lequel elle va être, c'est un niveau qui n'a rien à voir avec le niveau inférieur. C'est un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et pour passer entre les deux, il y a une sorte de Nahar Dinor, il y a un fleuve de feu, dans lequel on le fait oublier ce qu'elle a appris avant, temporairement, pour être prête à vouloir recevoir ce qu'il y a après, et après elle peut accrocher. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça n'arrête pas.
C'est une catalyse, quoi.
C'est obligatoire, sinon ça passe pas. Sinon, tu peux pas. Parce que quand tu crois que tu connais tout, tu peux pas prendre autre chose, c'est pas possible. T'es obligé de faire un blanc, et après ça rentre. Et au contraire, après ce que tu connaissais avant, va venir...
Il va te servir.
Exactement. Mais d'abord, t'as fait un blanc. T'as dit, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ça, c'est chorma, koharma, la force du questionnement. Comme on a dit, la sagesse provient du néant. Néant! Vezeuchacha. Il est écrit dans le Pirkei Avot aussi, mais dans le Tamim, c'est qu'est-ce qui est écrit? Ezeu Chacham, qui est le sage, aroé et anolad. Ça veut dire quoi? Qui est le sage? C'est celui qui voit ce qui naît. Alors, littéralement, ça veut dire comme ça. C'est écrit au Pirkei Avot. Enfin, on se base sur Mishnah Pirkei Avot. C'est quoi un sage? C'est une personne qui voit ce qui naît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive à, il arrive à, à prévoir plusieurs coups à l'avance, qui voit ce qui va naître.
Il anticipe.
Ouais, d'accord. Aroé et Anolat, c'est-à-dire celui qui voit ce qui va naître. Il n'attend pas que ça naisse pour dire, ah, dès le départ, il a vu naître. Mais d'après la Kabbalah, on explique ça différemment. Ça veut dire quoi qu'il le voit naître? Ça veut dire quoi? Aroé et Anolat, qui voit ce qui va naître. Comment ça fonctionne une naissance? Dans une naissance, comment ça fonctionne? Il y a un bébé, mais d'où il vient ce bébé? Il y a une conception. Écrivez-moi, c'est pas cette conception. Qu'est-ce que vous m'expliquez? Il y a eu une goutte, d'accord, qui est venue, qui s'est décomposée. Et quand elle s'est décomposée, c'est à ce moment-là que le bébé a commencé à pousser. Et le chacham, Ezeu chacham, c'est qui le chacham? Aroé et Anolad. C'est celui qui voit comment les idées naissent. Et qui comprend que toi, tu vois l'idée, le produit fini, tu dis, t'as vu, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais tu comprends pas qu'en vérité, cette idée qui t'a l'air énorme telle qu'elle est maintenant, en vérité, à la base, elle a démarré d'un blanc, d'un néant. Et les plus grandes idées dans l'histoire sont venues comment? D'un blanc. C'est un blanc. Le fameux Eureka, on peut donner toutes les noms du monde. Que toutes les grandes inventions qu'on a eues dans le monde, comment on les a découvertes?
Par le hasard aussi.
Bah oui, mais le hasard.
Qui est devenu une nécessité.
Oui, mais non. Il y a une recherche, c'est des chercheurs. C'est pas Stam comme ça, ils l'ont découvert. C'est des chercheurs. Non.
Marie Curie a trouvé la pénicilline comme ça, par hasard.
Oui, par hasard, mais on travaille.
Mais Yann Fleming.
Yann Fleming, c'est James Bond.
C'est Bond.
Ilan. Yann Fleming.
Voilà. Donc, en tout cas, ce que je veux dire par ici, c'est que la Chorma doit obligatoirement passer par une phase de néant. C'est comme ça. Et ça veut dire qu'en d'autres termes, pour être plus clair, même dans la vie de tous les jours, ne pas hésiter quand on est face à un problème et qui n'a pas de problème, ne pas hésiter à tout remettre à plat. Et d'admettre que peut-être que les méthodes qu'on utilise jusqu'à maintenant sont peut-être pas bonnes. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois dans ma vie de le voir, pour moi et pour d'autres personnes aussi qu'on a essayé de conseiller, de voir ça, que parfois quand on aide une personne et quand on s'aide soi-même à essayer de tout remettre à plat et d'admettre qu'il y a un problème. On veut pas admettre qu'il y a un tort. L'homme n'aime pas admettre que ce qu'il a fait ça marche pas. Mais quand à un moment tu admets que peut-être il y a un problème qui tombe par rond et qu'il faut chercher autre chose, d'accord? Et ben à ce moment-là tu as des idées qui arrivent, et là à ce moment-là tu vois que ton cerveau en vérité dès que tu laisses travailler, il peut travailler. Mais si tu le laisses pas travailler, tu lui dis j'ai tout compris, tu lui dis tais-toi, j'ai tout compris. Tu laisses ton cerveau, tais-toi, j'ai tout compris, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Mais il parle plus. T'es bon, je parle plus, j'ai tout compris, je parle plus. Mais dès que tu lui dis écoute, j'ai besoin de toi, j'ai rien compris. Il dit ben viens, on va t'aider maintenant. Et c'est comme ça par rapport à Dieu aussi. Quand tu dis à Dieu j'ai tout compris, il dit bon, t'as tout compris, je parle pas. Mais si tu dis à Dieu écoute, à Kadosh Baruch Hu, voilà, je remets tout à plat, je suis perdu, etc., fais quelque chose. Viens faire quelque chose. Ça veut dire que Ira, la première crainte, c'est se sentir petit devant Kadosh Baruch Hu. Ensuite, Rochma, c'est s'effacer devant Kadosh Baruch Hu. Et là, on arrive à la vraie Ira, qui est la crainte de la honte devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, il dit, quand on réfléchit à ça, on réfléchit qu'en vérité, on est complètement annulé devant Kadosh Baruch Hu, comme le soleil est annulé devant toutes les créatures, etc. Et c'est pour ça que on comprend bien ici que la seule façon d'avoir une vraie crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est en s'annulant face à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de secret. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va développer l'amour. On va expliquer que de la même façon que dans la crainte, il y avait deux niveaux. Il y avait la crainte de bas niveau et la crainte de haut niveau. La crainte de bas niveau, c'est la crainte que je fais parce que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Et la crainte de haut niveau, c'est se sentir petit devant un Kadosh Baruch Hu, s'effacer devant un Kadosh Baruch Hu. De la même façon, on verra la même chose dans l'amour. Dans l'amour, c'est un peu plus compliqué, mais c'est très intéressant. Parce que vous allez voir que dans l'amour aussi, on a plusieurs types d'amour avec Kadosh Baruch Hu. Déjà, il faut avoir l'amour de Kadosh Baruch Hu, mais il y a plusieurs types d'amour de Kadosh Baruch Hu. Et ça, Bezrat Hashem, on développera tranquillement la semaine prochaine. Voilà. Alors, la semaine prochaine, il y a cours. Mais la semaine d'après, Bezrat Hashem, il n'y aura pas cours. Je serai à New York à l'occasion de la convention annuelle des Shurim. Voilà. Donc la semaine prochaine, il y a cours, mais la semaine d'après, il n'y a pas. Ah bon. Voilà. Bezrat Hashem.
En direct, Arbitre.